m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie,
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme ! Au secours !
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bienvenue sur Radio Courtoisie, où nous allons aborder, dans une première heure, l'état catastrophique ou pas de la défense française et européenne, et dans une seconde heure, l'état catastrophique, assurément, de l'audiovisuel public. D'abord, en recevant Thibaut Perrin, donc le directeur du Centre d'analyse et de prospective de l'ICEP, donc l'école fondée par Marion Maréchal, et aussi Pierre-Romain Thionnet, eurodéputé du groupe des Patriotes pour l'Europe, autrement dit le groupe auquel appartient le Rassemblement national au Parlement européen. Bonjour monsieur le député, bonjour monsieur le directeur, merci d'être avec nous. Bonjour. Et évidemment cette émission est présentée avec le précieux concours de Marie-Charlotte Dubourblanc.
Bonjour.
Bonjour Marie-Charlotte. Vous pouvez, ainsi qu'on vous l'a expliqué, nous appeler au 01 46 51 00 85. Je n'ai pas vérifié s'il y avait un bénévole prêt à prendre vos messages, mais si, voilà, j'en suis. Merci Louise, c'est sans doute elle. Et sinon, donc courtoisie@rc.fr pour nous faire passer vos messages. L'état de la défense en France, c'est un sujet d'actualité. Pourquoi ? Parce que le salon Eurosatory a ouvert ses portes. Il les a peut-être déjà fermées, d'ailleurs. Il y a à peine quelques jours. Parce que le SCAF, le projet donc, d'avion du futur couplé au drone du futur, couplé au système d'information du futur, est dans les choux. Parce que la loi de programmation militaire est en train d'être discutée. Elle a été retoquée au Sénat. Autrement dit... Alors même qu'on nous explique que la Russie est à nos portes, qu'il faut absolument reconstituer notre outil industriel et surtout nos capacités militaires, eh bien, on a l'impression que l'armée française, la défense française est à la peine. Ce n'est pas parce qu'on a lancé un Pang, un porte-avions nouvelle génération, qui n'est pas censé rentrer en service avant une décennie au moins, qu'on va véritablement être capable de se défendre avec nos petits bras, avec une armée échantillonnaire, pour citer les chefs d'état-major, qui explique que c'est très très bien, on a réussi à avoir la collecte complète, mais avec aucune profondeur, c'est-à-dire j'ai un soldat avec sa panoplie épatante, et avec tous les soldats avec toute leur panoplie, mais il n'y en a pas un deuxième derrière, j'ai un canon mais j'en ai pas un deuxième, j'ai une frégate et j'en ai pas une deuxième, etc. Voilà. C'est le choix qu'a fait l'armée française en profitant des dividendes de la paix. Est-ce qu'à l'heure où on nous explique qu'il faudra peut-être verser le sang de nos enfants, ça a été des choix intelligents? Est-ce que Emmanuel Macron, qui exige que bien sûr tout le monde soit maintenant hors de marche et qu'on se réindustrialise à grands pas, a véritablement fait son boulot de président de la République? Eh bien, c'est avec Thibaut Perrin et Pierre-Romain Thionnet que nous allons en discuter. Thibaut Perrin, vous êtes allé visiter Eurosatory justement avec Marion Maréchal, si je ne m'abuse. Alors, donc cette exposition du savoir-faire français, entre autres en matière militaire, vous a-t-elle convaincu?
Alors, tout d'abord, merci beaucoup de votre invitation. Effectivement, vous l'avez dit, j'ai pris la direction du Centre d'analyse et prospective de l'ICEP, l'école cofondée par Marion Maréchal et Thibaut Monnier, qui est donc Centre d'analyse et de prospective, qui est un think tank qui réfléchit sur les politiques publiques avec une liberté de réflexion. Et effectivement, l'événement de la semaine dernière pour la communauté de défense, c'était ce salon Eurosatory qui a eu lieu à Villepinte, qui a réuni un très grand nombre d'exposants. C'est une grande vitrine pour l'industrie de défense française. Plus de 2600 exposants, des dizaines de milliers de visiteurs. Et à l'occasion de ce salon, j'y suis allé effectivement pour assister à des visites politiques. Il y en a eu un grand nombre. Il a été très intéressant de voir que ce salon était très suivi par un certain nombre de candidats à la présidentielle, par un certain nombre aussi de députés. Marion Maréchal s'y est déplacée dès l'ouverture le lundi après-midi. Pour répondre à votre question, il y a effectivement quelque chose qui se passe sur ce salon, qui est que ça a été pendant longtemps le salon de l'armée de terre, le salon de la direction générale de l'armement, et on voit aujourd'hui que les industriels s'en sont saisis et en ont fait le salon de l'armement vraiment, de l'industrie de l'armement, avec des propositions qui ne sont pas toujours issues des commandes directement de la DGA, mais parfois des propositions qui sont construites par les industriels eux-mêmes et qui viennent dire ensuite aux acheteurs publics « il se passe quelque chose, venez voir, on est prêt finalement à fournir de nouveaux matériels ». La question derrière, évidemment, elle se tourne vers les politiques. Voilà.
Est-ce que les politiques sont capables effectivement de se saisir de ces nouveaux matériels? On a l'impression, Pierre-Romain Thionnet, que d'une certaine manière, les industriels ont mieux compris que les administrations qu'il y avait une guerre nouvelle qui était en cours. Les leçons de l'Ukraine ont été plus vite digérées par le système industriel privé que par la commande étatique. Et voilà, les déluges de drones qui sont en train de s'abattre de part et d'autre du front ukrainien, la manière dont la guerre en Iran, a confirmé l'importance grandissante de ces drones, a changé la donne. À Eurosatory, donc voilà, les drones étaient présents et avec l'idée que aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'un Pang. Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'une armée équipée comme elle était il y a 10 ans. Les industriels sont capables de produire quelque chose qui n'est pas exactement ce qu'attendaient les armées.
Je vais revenir dans un deuxième temps sur la deuxième partie de votre question et de votre réflexion, en effet, sur les... Est-ce qu'il faut opposer la révolution, la dronisation qui est en cours et les matériels plus anciens, plus classiques, traditionnels? Mais en effet, pour revenir sur le salon Eurosatory et ce que ça dit aussi du dynamisme, des propositions des industriels pour les besoins des armées, et je me suis rendu également une journée au salon Eurosatory. Il y avait également une délégation du RN et de ses alliés de l'UDR qui s'y est rendue, délégation parlementaire pour l'Assemblée nationale. Mais en effet, il y a en discutant avec les organisateurs, le salon est toujours plus grand. Le salon a lieu tous les 2 ans et ça prend toujours plus de place. Ils ont ouvert un nouveau hall cette année pour cette nouvelle édition. De plus en plus de délégations nationales. Il y en a déjà, je crois qu'il y en a près de 180, ce qui est énorme. Et en effet, là, ce qu'on a pu observer à ce salon, il y avait déjà des drones dans d'autres éditions précédentes, mais là, il y a vraiment une prolifération, on peut dire, du drone dans le salon. Et le drone à la fois comme objet offensif, les fameux drones kamikazes, les FPV, mais aussi les moyens anti-drones, qui sont évidemment la réplique nécessaire et logique au drone. Donc tout ce qui va être les intercepteurs, comment utiliser l'intelligence artificielle pour faciliter les interceptions de drones, etc. Et donc, ce qui était intéressant à ce salon et qui montre aussi, là, pour parler spécifiquement français, là, toute la qualité, l'offre et l'excellence de nos groupes français, c'est que vous avez d'un côté les groupes traditionnels qui s'adaptent à cette nouvelle donne, donc les grands groupes français qui sont assez bien connus, et vous avez aussi toute une nouvelle génération, on peut dire, de start-up, de très jeunes PME, et qui se lance un petit peu comme ce qu'on peut observer dans le domaine spatial. Vous avez le New Space, donc toutes ces nouvelles startups, ces nouvelles entreprises qui proposent des solutions assez rapides, qui s'adaptent beaucoup plus facilement au marché ou aux demandes. Et vous avez la même chose un petit peu dans le milieu de la défense, notamment avec les drones aujourd'hui, ou de toutes nouvelles startups, toutes jeunes équipes de parfois moins d'une dizaine de salariés qui sont parfois un petit peu comme dans les storytelling d'entrepreneurs américains qui ont commencé dans le garage ou quoi que ce soit.
Entre start-up et storytelling, je sens les auditeurs de Radio Courtoisie qui bouent. Oui. Voilà. Donc le narratif des jeunes pousses, le récit des jeunes pousses, excusez-moi monsieur le député.
C'est pour donner justement un petit peu le nouveau visage de l'industrie de défense française qui a cette dualité, les grands groupes et les petites entreprises innovantes, voilà, qui sont en train aussi de faire leur place. Alors, tout le monde ne survivra pas dans ce grand marché. Il y en a qui proposent des choses, des prototypes, mais qui ne verront peut-être jamais le jour. Mais je pense que ça participe quand même à cette excellence française, ce savoir-faire. Et en tout cas, on a toutes les offres sous la main pour pouvoir s'adapter à la guerre moderne. Et j'ai peut-être été un peu long sur la première partie, je vais faire plus court sur la deuxième partie de votre question. Mais je ne crois pas qu'il faille opposer les armements plus classiques, traditionnels, ce qu'on peut dire les grosses plateformes, donc porte-avions, chars, frégates, ou bien tout simplement même chasseurs, dans le terme pour l'aviation, puisque tout ça finalement est assez complémentaire et peut être utilisé dans différentes étapes au cours d'une campagne militaire, d'une guerre. C'est-à-dire que les drones n'effacent pas les grandes plateformes, simplement ils leur rendent très difficile l'accès à certaines parties du front. Mais par exemple, les chars de combat, bien sûr, sur le front aujourd'hui en Ukraine, on les voit assez peu, mais ils sont toujours là, en réserve. Et donc, ils pourraient un jour avoir une exploitation, une brèche dans le front, et ensuite, on retrouve totalement l'utilité et la maîtrise des plus gros groupes, des plus grosses plateformes de combat terrestre ou aéroterrestre, et là, qui auraient toute leur utilité. Donc, il ne faut pas prononcer trop rapidement l'obsolescence ou la péremption de certains matériels, qui en fait, selon le type de guerre qui est menée, selon aussi la manière dont les campagnes sont menées dans le temps, pourraient retrouver leur utilité et ça pourrait nous surprendre une nouvelle fois si on faisait un petit peu si on tirait le trait trop rapidement sur ces capacités, on se retrouverait peut-être dans 10 ou 20 ans à se dire, on a fait le choix des drones et finalement on a besoin de ces capacités-là. Donc c'est un peu notre budget est limité, mais il faut garder évidemment de tout et il ne faut surtout pas rater le virage du drone. Mais ça c'est une évidence aussi.
Alors, le virage du drone, c'est par exemple la société Renault qui a décidé de se lancer dans cette aventure. Et vous avez raison. Voilà, par exemple, la guerre en Ukraine nous a fait redécouvrir, d'un point de vue militaire, l'importance des chemins de fer qu'on avait évidemment complètement oubliés. Et là, on s'est retrouvé avec un front quasi 14-18 qui était entre guillemets une nouveauté. Thibault Perrin, en visitant ce salon de l'armement, on voit malgré tout que on va vers des solutions sur étagère, comme disent les industriels, c'est-à-dire qu'au lieu que la Direction générale de l'armement en France recueille les besoins des armées, les transforme avec cette logique technocratique dont on ne soulignera jamais assez les mérites, je suis ironique, et ensuite propose du coût humain pour ces armées, on va vers quelque chose où, au contraire, l'ensemble des armées se fournit chez un industriel qui a proposé une solution adaptable. Et par exemple, dans un entretien accordé par le général Charles Baudouin, donc qui s'occupe de Rossatori, dont vous me disiez tout à l'heure que c'était un général
très connu effectivement pour ses compétences en matière de capacitaire dans l'armée de terre.
Voilà, capacitaire.
L'un des responsables de l'équipement de l'armée de terre pendant plusieurs années.
Et il mettait en avant, par exemple, un canon intéressant en disant que auparavant, on faisait exactement pour chaque armée ce dont ils avaient besoin, mais que là, le Rapid Fire de KNDS et Thales, autrement dit une co-entreprise allemande et une entreprise française, est un canon de 40 mm conçu pour équiper des véhicules terrestres. Il a été associé au senseur de Thales pour devenir un système naval et aujourd'hui, le Rapid Fire est présenté comme une solution de défense anti-aérienne. Voilà, donc là, on se retrouve avec de nouveaux armements qui sont non pas hybrides, mais qui sont parfaitement adaptables. Et donc, c'est l'industriel qui pense cette adaptabilité plus que la DGA qui n'établit le cahier des charges.
Alors, vous avez totalement raison de mettre en lumière ces tensions, ces oppositions entre différents acteurs et différentes forces et différentes manières de travailler. Il y a eu pendant très longtemps dans les programmes d'armement quelque chose qu'on appelle là aussi les auditeurs de Radio Courtoisie vont se boucher les oreilles, mais du top-down, donc quelque chose qui est commandé par le haut, par la machine technocratique comme vous disiez, mais c'est parfois utile. La DGA, elle a été créée sous l'impulsion du général de Gaulle et de ses successeurs pour mettre en œuvre et mettre en place la dissuasion nucléaire française et toutes ses composantes. Donc on a besoin de voir sur le long terme et on a besoin de commander, de prescrire des technologies particulièrement fiables. Mais ça n'est pas adapté, cette méthodologie, à toutes les situations et notamment, on a parlé du drone, mais le drone, ça fait déjà 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on en parle, ça n'est pas nouveau. Et donc, il est nécessaire de prendre finalement en main les innovations telles qu'elles viennent du terrain. Ça peut venir des entreprises, ça vient parfois de l'intérieur des forces. Au sein du ministère des Armées, une agence a été créée pour capter les idées des militaires qui sont sur le terrain, qui sont dans leur régiment, qui sont sur leur navire, et qui proposent des solutions, voire qui commencent à les conceptualiser, à les modéliser. Donc, C'est ce qu'on appelle, à l'inverse, le bottom-up, hein, l'innovation qui vient du bas. Donc ça, il faut être capable, effectivement, de se faire se rencontrer ces deux logiques-là. La logique de la planification sur le long terme, comme celle de la loi de programmation militaire, dont je crois qu'on va parler tout à l'heure, n'est pas toujours adaptée pour ça, parce qu'elle voit longtemps à l'avance, et l'innovation nécessite d'être agile et de changer ses méthodes, y compris d'achat. D'où l'idée aussi, qui s'est beaucoup installée dans les trois armées, de décentraliser les crédits autant que possible pour que les unités, à petite échelle, puissent tester des solutions, passer un petit contrat avec un industriel de leur secteur géographique, et la France est une véritable pépinière à ce titre, à encourager. Ça, c'est quelque chose, et pour reboucler avec le sujet politique, c'est quelque chose à encourager. Il y a parfois eu des tentatives de trop centraliser les choses, d'interdire les expérimentations locales. On sait combien la France peut être parfois très jacobine. Le fait de faire confiance au terrain, le fait de déléguer des crédits ou des méthodologies, c'est un point extrêmement important et qui n'a peut-être pas suffisamment été pratiqué. Et quand on écoute un peu de près les militaires, c'est quelque chose qu'on entend. Voilà. Après, au-delà de tout ça, vous avez dit tout à l'heure, est-ce que les armées françaises ont vraiment pris la mesure des changements stratégiques et est-ce qu'elles ont vraiment essayé d'adapter leur format ? C'était dans votre introduction. Je tiens à souligner une chose, parce qu'on va parler après de la planification financière de la défense, c'est que justement, il s'est passé quelque chose en France, c'est que les militaires ont tiré la sonnette d'alarme très tôt. Aujourd'hui, on fait entrer Marc Bloch au Panthéon. Marc Bloch, c'est l'étrange défaite, c'est celui qui raconte précisément la manière dont successivement nos lignes ont été enfoncées par les Allemands en 1940, parce que nous n'étions pas prêts, et nous n'étions pas prêts parce que la guerre n'avait pas été pensée, ni dans les états-majors tels qu'elles se déroulaient désormais avec les conditions modernes, les chars et les avions, ni dans le monde politique. Je crois que les généraux français et les militaires, les officiers français en général, ont pris conscience. Non seulement de la situation qu'on a aujourd'hui et qu'on va avoir demain, mais également des enseignements de l'histoire. Et il faut se rappeler que le début du quinquennat, du premier quinquennat du président de la République actuel, d'Emmanuel Macron, ça a été l'affaire Pierre de Villiers. C'est Pierre de Villiers qui, le premier, a dit « Il n'est pas question que, comme cela s'est produit gouvernement après gouvernement depuis des décennies, on laisse à nouveau le budget de la défense servir de variable d'ajustement des bouclages budgétaires de fin d'année. Et il a vraiment mis sa casquette sur la table ou son képi et il en a fait les frais. À la suite de cette démission, il y a une première loi de programmation militaire qui a été votée et j'en dis peut-être pas plus pour vous laisser intervenir et relancer le débat, mais on va voir que l'histoire a des péripéties qui, encore aujourd'hui, et ça tombe bien, cette coïncidence entre Marc Bloch et le vote de l'actualisation de la LPM, mais il se trouve que tout ça se passe aujourd'hui.
Alors, justement, pour rebondir et poursuivre sur votre propos, Thibaut Perrin, j'avais une question pour monsieur le député. Est-ce que la question de la souveraineté pour la France est bien à l'ordre du jour à Bruxelles ? Est-ce que nos petites entreprises dans l'innovation sont valorisées ? Est-ce que la France n'est pas légèrement en retard malgré, comme disait Thibaut Perrin, les sonnettes d'alarme tirées depuis des années, face, par exemple, à nos voisins, les Allemands? Est-ce que, on a vraiment envie de valoriser l'industrie française, dans la question de l'armement en l'occurrence, et de la défense de manière générale, ou est-ce que, au contraire, on est complètement à la ramasse?
Merci pour cette question. Je dirais qu'il y a deux angles pour vous répondre. D'une part, il y a les budgets nationaux, donc respectivement de Paris et de Berlin, et du décrochage progressif qui pourrait avoir lieu entre évidemment l'ampleur du budget français qui peut être consacré à la défense et les marges budgétaires dont peut bénéficier Berlin et qui pourront consacrer plus largement à leur défense, à leur remontée en puissance. Et ça, c'est évidemment aujourd'hui deux trajectoires qui sont assez nettes si on poursuit les choses. Globalement, presque dès aujourd'hui, Berlin, quasiment le double du budget de défense français. Alors, après, bien sûr, il y a les chiffres purs ne veulent pas toujours dire quelque chose. L'Allemagne part de plus loin que la France en termes de capacité opérationnelle, d'armée complète, et ne vise pas le même type d'objectif. Mais en tout cas, on ne peut pas se rassurer avec ces éléments-là qui sont notre passif, notre expérience, notre plus grande expertise et savoir-faire. Car à l'horizon de 10 ans, il peut y avoir un écart assez abyssal entre les matériels, le volume, la masse des forces conventionnelles allemandes et la masse de l'armée française. D'ailleurs, je pense qu'on ne parle pas assez souvent aussi des plans ambitieux des Polonais, hein, qui dépensent quasiment 5% de leur PIB. Et là, si on parle du secteur terrestre, à l'horizon de 10 ans, je pense que en termes de volume, de matériel, de capacité, ce sera peut-être assez loin devant les capacités de l'armée de terre française. Mais donc là, il y a un risque qui est celui d'un décrochage. Il n'y a pas de risque en termes de menaces militaires directes sur la France de la part des Polonais ou des Allemands, mais là, un risque de décrochage. Et donc aussi, dans ce moment de recomposition sur le continent européen où il y a un désengagement américain, il y a tout de même une forme de concurrence, de compétition sur une forme de leadership en Europe, ou en tout cas, qui est la nation la plus capable, qui prend les initiatives et qui arrive à peut-être emmener davantage les autres nations dans certaines orientations sécuritaires, diplomatiques en Europe. Et évidemment, ce décrochage de la France par rapport aux voisins allemands, là, pose une question de rang et d'influence en Europe, mais donc aussi au-delà. Ça, c'est le premier enjeu. Et donc là, en effet, là, c'est une question budgétaire et politique, et où il y a un besoin de dégager davantage de marge de manœuvre financière, mettre fin à certains gaspillages de l'argent public, assainir nos finances publiques. Donc là, il y a tout un débat national sur ces questions. Et ça, c'est la réponse qu'on doit apporter. Nous, Rassemblement national, évidemment, ce sont aussi nos priorités en vue de 2027. Et c'est à partir de là qu'on pourra tenir la cadence, si je puis dire, avec nos voisins. Ensuite, deuxième aspect de la réponse, là, ça va être l'enjeu avec Bruxelles, l'Union européenne et les fonds européens qui peuvent exister, qui sont consacrés à la défense, l'industrie de défense, à soutenir certains projets d'armement, à subventionner certaines acquisitions d'armement par les États membres, etc. Et là, on est dans un moment intéressant puisque l'Union européenne s'intéresse de plus en plus à la défense. Il y a un bon côté et un mauvais côté. Et le mauvais côté tend davantage à l'emporter sur le bon. On va commencer par le bon côté. Le bon côté, c'est que quelque chose qui était tabou jusqu'à assez récemment devient un petit peu, tend à se démocratiser et à s'installer assez largement dans toutes les réflexions au Parlement européen. C'est de dire, il faut prioriser les armements européens sur les armements américains. Et ça, c'est quand même une petite révolution dans le domaine bruxellois et supranational européen, où jusqu'à assez récemment, il était assez inconcevable de séparer le marché européen et le marché américain. Et donc, il y avait une forme de communion dans le grand marché transatlantique de l'armement. Aujourd'hui, cette révolution est plutôt faite, et de manière générale, il y a plutôt une majorité assez constante en Europe, dans le Parlement européen, hein, en tout cas, pour assumer une préférence européenne dans les programmes. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a de l'argent qui est mis en jeu, l'argent des Européens, des contribuables européens, c'est assez rare ou c'est quelques dérogations. Nous, on s'y oppose constamment, mais c'est quand même parfois seulement quelques dérogations qui permettent de ne pas acheter européen. En revanche, là où le bât blesse et là où il y a un sujet d'inquiétude pour la souveraineté française directement pour les entreprises françaises, c'est que parallèlement à cela, la Commission européenne se dit que c'est aussi une bonne idée pour centraliser certaines compétences et un petit peu s'ériger en nouvelle grande DGA pour l'Europe, nouvelle grande direction générale de l'armement pour l'Europe, et jouer un petit peu le rôle de centrale d'achat à la place des États. Donc la Commission européenne, régulièrement dans les propositions de règlement, de nouveaux programmes européens, tend à se donner une importance assez centrale dans toutes les définitions. Il faut plutôt aller vers tel type d'armement. Il faut plutôt investir sur ce type de secteur, sinon vous n'aurez pas les subventions. Et donc ça, c'est le rôle de nous, parlementaires du Rassemblement national et de notre groupe plus largement, et on a d'autres alliés dans d'autres groupes, pour empêcher cette prise de compétence de la Commission en matière de défense. Mais ça devrait surtout être le rôle du gouvernement français et de son président de la République au sein du Conseil européen. Alors, les textes européens, pour aller très brièvement, ils sont négociés entre les États, le Conseil, la Commission et les parlementaires européens. Et si vous n'avez pas, côté français, un gouvernement qui monte au créneau et qui défend la souveraineté française et qui s'oppose aux prises de compétences de la Commission, parfois accordées par le Parlement européen aussi, eh bien, ça va passer à chaque fois. Donc, ça, c'est ce que nous, on reproche au gouvernement français actuel, c'est que dans pas mal de textes. Il ne monte pas suffisamment au créneau pour défendre la souveraineté française en matière de défense et pour s'assurer que la Commission européenne est simple. Il faut simplement qu'elle ait un rôle de verser les fonds qui peuvent être votés ou aider à organiser, orchestrer la cohérence des fonds, etc. Mais surtout pas de compétences de décision, d'orientation vers tel type d'armement. Ça, c'est le danger, j'ai envie de dire, en termes de souveraineté aujourd'hui.
Alors justement, Thibaut Perrin, la manière dont Ursula von der Leyen excède continuellement les limites de sa fonction, et notamment en matière de défense, en matière de politique étrangère, voilà, c'est un vrai danger. Et en plus, Emmanuel Macron passe sa vie à nous parler d'une Europe de la défense où on a l'impression qu'il compte bien sacrifier, si j'ose dire, la souveraineté française, l'indépendance française, au profit d'une souveraineté européenne dont il nous explique quelle est la seule issue, en fait, à la souveraineté française. Et au point, on l'a vu dans l'affaire du SCAF, de s'irriter qu'un industriel français comme Dassault ne veuille pas passer entièrement sous pavillon allemand.
Alors, effectivement, la politique d'Emmanuel Macron n'est pas toujours très claire, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu cette incantation récurrente sur la souveraineté européenne. Elle a parfois, on peut considérer qu'elle a du sens quand il s'agit de défendre l'Europe, ou les peuples européens, qu'il s'agit de faire des coalitions utiles. Mais d'abord, il faut en revenir un petit peu aux définitions, c'est-à-dire qu'est-ce que la souveraineté. Donc, est-ce que vraiment on peut parler de souveraineté au sens strict à l'échelle européenne? Et puis, elle se heurte parfois à des réalités. Et c'est ce qu'on a vu effectivement sur le programme du SCAF. C'est un peu la chronique d'un échec annoncé. Il y a eu 4 programmes lancés par Emmanuel Macron peu de temps après son arrivée à l'Élysée. Le char du futur, le MGCF, dont on parlera peut-être après, l'Eurodrone, le patrouilleur maritime du futur et le SCAF, donc le système de combat aérien du futur. Le système de combat aérien du futur, l'idée était de confier à Dassault, industriel français, en partenariat avec Airbus et avec l'industrie allemande, la construction de ce nouvel avion autour duquel viendrait s'agréger un certain nombre de capacités drones, voilà, de nouvelles capacités de combat. Et en contrepartie, l'idée était de laisser aux Allemands le leadership, la priorité sur le char du futur, parce que c'est une compétence que depuis la fin du char Leclerc, depuis la fin de la production des chars Leclerc, on n'a plus en France sur le territoire, et qu'à l'inverse, l'Allemagne, notamment au titre peut-être de son industrie automobile, qui est particulièrement développée, était capable de faire monter en puissance. Finalement, ce qu'on a vu, c'est que l'industrie allemande, avec de la suite dans les idées, avait la volonté de récupérer un leadership de plus en plus important, y compris sur l'avion du futur, y compris sur ce que Dassault savait faire en propre, et au point de provoquer finalement le refus de Dassault d'aller plus loin, et l'arrêt de ce programme acté par l'ensemble, par le gouvernement. Dans un tempo assez terrible, puisque c'était la veille du salon et qu'on approche de la fin des deux quinquennats d'Emmanuel Macron. Sur les autres programmes qui avaient été lancés en commun avec l'Allemagne, l'avion de patrouille maritime, pendant longtemps, les études avaient été assez loin. Et finalement, c'est à l'occasion d'une rencontre entre Biden et Angela Merkel à l'époque, que les Allemands ont décidé, dans le dos de la France, d'acheter sur étagère un avion américain et donc de laisser la France seule sur ce programme. La France a trouvé d'autres alliés en Europe pour y travailler. L'Eurodrone, de la même manière, la France voulait un monomoteur, l'Allemagne voulait un bimoteur. On n'a pas réussi à s'entendre et finalement, on va acheter américain sur étagère.
J'aime beaucoup la manière dont vous nous décrivez l'état du couple franco-allemand à travers le succès de ces programmes communs.
Oui, bah effectivement, on voit bien qu'il y a une véritable difficulté. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut rien faire avec l'Allemagne? Je pense que ça serait manquer de vision. Pourquoi? Parce que, comme ça a été dit tout à l'heure par monsieur le député, on a une Allemagne qui est en train de doubler, voire de tripler à l'horizon 2030, son budget de défense, et qui a bien l'intention de devenir une nation structurante en la matière. Pour l'instant, leur capacité, leur industrie de défense, elle est orientée vers la production de matériel et vers l'export, beaucoup plus que vers l'emploi opérationnel et donc l'agrégation opérationnelle de différentes armées. La France sait faire ça. La France est une armée d'emploi. La France a en plus le savoir-faire sur la totalité du spectre avec la dissuasion nucléaire, et elle a quelque chose à apporter à l'échelle de l'Europe. Et donc, il serait terrible de laisser les Allemands, sur certains programmes, tout faire tout seul. Et donc l'idée de faire certaines choses avec eux, en soi, n'est pas mauvaise. Simplement, il faut savoir comment est-ce qu'on s'organise pour que les compétences cœur de l'industrie française soient valorisées et soient pleinement embarquées dans les programmes à réaliser.
Et ne soit pas capté par les Allemands. Monsieur le député, donc évidemment, on parle de l'échec du SCAF, on parle de la relance possible du MGCS, donc le char du futur, puisque Emmanuel Macron s'est félicité du fait que il y a un partenariat franco-allemand renforcé autour de KNDS, donc le fabricant de ce char. D'ailleurs, à Eurosatory, il y avait un char Capint. Avec un châssis allemand et une tourelle française, voilà, qui pourrait d'ailleurs remplacer les chars Leclerc qui ne sont plus fabriqués et qui sont en bout de course pour ceux qui sont en France. Mais on a surtout un souci qui est la loi de programmation militaire en France, donc la LPM. On avait négocié une augmentation considérable de cette LPM. Une fois plus, chaque fois qu'on parle d'augmentation considérable en France, c'est par rapport aux sommes misérables qui étaient consacrées. Et rappelons que d'ici 10 ou 15 ans, l'Allemagne sera à 170 milliards d'euros de budget militaire, pendant que la France sera à 75 si la trajectoire actuelle se poursuit, ce qui est évidemment pas absolument certain, étant donné l'état de quasi-faillite de la France. Donc cette LPM, la loi de programmation militaire française, a été votée, a été retoquée au Sénat, qui exige qu'en fait elle ne soit pas de 35 ou 36 milliards, mais plutôt de 50. À votre avis, la France va-t-elle réussir à se doter d'une véritable loi de programmation militaire qui lui permettait de rattraper en partie son retard et de ne pas passer de faire en sorte de passer du stade d'armée échantillonnaire, une fois plus pour citer les militaires eux-mêmes, à une armée véritablement en capacité de mener les guerres qu'on nous promet?
Oui, sur cette actualisation de la loi de programmation militaire de la LPM, je tiens à rappeler que notre groupe parlementaire a voté cette actualisation de la LPM, mais bien sûr avec toutes les réserves et les précisions qu'il fallait. Il y a eu une conférence de presse de nos deux collègues Franck Giletti et Laurent Jacobelli, qui sont deux députés RN de la commission défense, sur ce sujet. Mais justement, pour rappeler que, évidemment, cette hausse des crédits, même si j'apporterai certaines limites ou critiques à la LPM rappelées par notre groupe, mais est quand même un besoin de nos armées. Donc, il était inconcevable pour le groupe Rassemblement National de ne pas voter des crédits supplémentaires à nos armées dans cette mise à jour de la loi de programmation militaire. Ça, c'est la première chose. Mais ensuite, cette hausse de 36 milliards pour jusqu'à 2030, bien sûr, elle est en grande partie la rectification, la correction de l'insincérité de la LPM initiale. C'est-à-dire qu'un certain nombre de dépenses n'avaient pas été suffisamment anticipées, notamment le coût des OPEX, des opérations extérieures supplémentaires. Il y a eu aussi les programmes d'aide à l'Ukraine qui ont été sous-estimés ou pas suffisamment comptabilisés, notamment la Facilité pour la paix, c'est le nom d'un programme de livraison de matériel à l'Ukraine. Et donc tout cela est rattrapé dans ces 36 milliards-là. Donc en fait, la mauvaise conception et la façon dont c'est présenté par le gouvernement et parfois aussi ses rapporteurs comme 36 milliards supplémentaires aux armées, en fait, on vient corriger et rectifier l'insincérité de la LPM initiale. Donc ça, c'est quand même aussi ce sur quoi nos députés sont montés au créneau et ont tenu à le rappeler. Et en effet, cette LPM qui vient simplement permettre à nos armées de respirer ou d'avoir la tête au-dessus de l'eau, mais elle ne permet pas un passage à un format différent, un format plus étoffé, plus adapté à en effet le plus gros enjeu aujourd'hui, c'est-à-dire être en capacité de durer dans une guerre majeure. Voilà, c'est ça aujourd'hui qui est la grande ambition que doit avoir un responsable politique pour les forces armées françaises, c'est redonner cette masse suffisante, ce volume suffisant en termes de capacité, en termes humains, pour tenir un engagement de longue durée d'une guerre de haute intensité. Ça, c'est l'enjeu. Et cette LPM, si c'est votre question, est-ce qu'elle permet d'y répondre? Non. Donc, nous, on s'est, et lors du vote au Sénat, du passage au Sénat, nos sénateurs ont voté, en effet, cette proposition de rejet ou en tout cas de passer aux 50 milliards supplémentaires. Mais nous, on fait des propositions assez concrètes. Je ne vais peut-être pas entrer dans le détail de chaque type de capacité ou d'armement, mais sur les secteurs qui sont aujourd'hui critiques et d'avenir, la frappe dans la profondeur, les lance-roquettes unitaires, les capacités de destruction des défenses antiaériennes adverses, augmenter notre flotte de rafales aussi. On parle d'une augmentation de têtes nucléaires aujourd'hui, d'augmentation du volume de notre force aérienne, mais ça demande aussi des rafales supplémentaires. La flotte de frégates aujourd'hui françaises. Donc ça, notre groupe a fait des propositions concrètes sur des types de plateformes, un nombre de plateformes supplémentaires, 3 frégates supplémentaires. C'était 30 rafales supplémentaires pour correspondre aux besoins de nos armées. Donc voilà, nous, on a fait des contre-propositions, un contre-budget. Et en effet, cette LPM est largement insuffisante, même s'il était nécessaire de la voter. Voilà, je tiens à préciser cela aussi.
Merci Thibault Perrin. Donc sur la LPM, quelle est votre analyse?
Alors, je pense qu'effectivement, j'ai un peu introduit tout à l'heure, il y a eu, au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, ce rappel de la nécessité de faire quelque chose. On a eu une première LPM qui a été tenue, mais qui était sans doute inférieure déjà aux besoins. Et ensuite, on a une deuxième LPM sur la période 2022 et qui va jusqu'en 2030, qui visait, post-guerre en Ukraine, 69 milliards à l'horizon 2030. 69 milliards. C'est certainement, c'était une marche effectivement importante hein, par rapport à ce qu'on avait avant. Je rappelle que le budget de la défense avant, c'était de l'ordre de 40 milliards autour de 2022. Je rappelle aussi que dans les programmes des candidats à la présidentielle à l'époque en 2022, on avait la proposition la plus ambitieuse dans les programmes, c'était celle de Reconquête d'Éric Zemmour qui disait il faut 70 milliards. Finalement, post-Ukraine, on a décidé effectivement d'aller presque jusqu'à 70 milliards et on se rend compte que ce n'est pas assez en cours de parcours. Et donc cette actualisation de la LPM, on parle de 36 milliards, mais comme l'a dit monsieur le député, c'est sur plusieurs années. Ça n'est pas 36 milliards de plus à horizon 2027 ou 2030. Une somme qu'on fait. Et donc, en fait, on vise simplement 76 milliards. On vise 76 milliards en 2030. En 2030, les Allemands seront à plus de 150 milliards. Pour vous donner
C'est le
un.
chiffre que je rappelais tout à l'heure, oui.
Voilà. Donc, on sera très loin, on ne sera même pas en dessous de ce que fera l'Allemagne. Alors, ce n'est pas seulement une question de comparaison entre différents pays, c'est vraiment une question d'adaptation de nos armées aux enjeux de demain. Quand on mesure aujourd'hui le gap technologique qu'il y a entre les Américains et les forces des pays européens, cet écart, notamment dans le domaine du cyber, du numérique, du spatial, des drones, cet écart se creuse de plus en plus. Quand on mesure ce qui se passe sur les théâtres d'opération en Ukraine, au Moyen-Orient, etc., ça a été dit, il y a là aussi des besoins très importants. Tout ça a été finalement assez peu pensé. On a des revues stratégiques qui sont venues réactualiser les différentes lois de programmation, mais ces revues stratégiques ne se traduisent pas par une refondation complète de la façon dont on prévoit nos équipements et dont derrière on va les contractualiser, les commander. ce qui va être nécessaire, très certainement, à partir de 2027 et au-delà, pour la prochaine majorité qui devra présider au destin de la nation, ça va être de réexaminer les choses, d'établir un état des lieux, ce qu'on appelle un livre blanc, pour faire l'état à la fois des menaces et des capacités dont, à l'heure actuelle, au regard de l'avancée des technologies et des besoins de nos armées, nous avons besoin pour le futur.
Alors, on est en train de parler de 36 milliards, 70 milliards, 150, etc. Vous êtes sur Radio Courtoisie, c'est une radio associative. Bon, on n'a pas besoin de 70 milliards, mais on aurait quand même besoin de quelques dizaines de milliers d'euros supplémentaires. Voilà, vous êtes 1,5 million à nous écouter, toutes audiences confondues chaque semaine. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes un peu moins de 20 000 à nous donner par an. Merci beaucoup. Voilà, si jamais on pouvait réduire l'écart, là aussi, un peu comme une bonne LPM, et donc faire en sorte d'augmenter notre capacité pour être un peu moins échantillonnaire, devenir fortement capacitaire, nous en serions ravis. Soutenir.rc.fr ou bien ainsi que Thibaut pouvait l'écouter lorsqu'il était jeune adolescent et qu'il suivait Radio Courtoisie, envoyez vos chèques au 61 boulevard Murat 75 016 Paris. Pierre-Romain Thionnet, donc on a parlé de la LPM, on a parlé de cette nécessité de redonner à l'armée française du souffle, et donc pas simplement de l'intelligence, pas simplement une vision stratégique, mais aussi les moyens de cette stratégie. Vous avez souligné que la LPM était insincère en partie parce que, évidemment, on n'avait pas programmé les OPEX, que néanmoins auxquels Macron s'engageait régulièrement. Est-ce qu'il y a un danger que ces capacités soient utilisées à brève échéance? Un général français a expliqué qu'il fallait être prêt à verser le sang des enfants français. On nous explique que la menace d'un conflit avec la Russie à horizon de 2 ans n'a jamais été aussi grande. Pensez-vous véritablement que l'armée française va avoir besoin d'engager ses troupes sur un front dans le cadre d'une guerre conventionnelle de haute intensité?
L'essentiel de la réflexion, c'est de, et c'est ce que parfois certains membres de l'état-major peuvent souligner, c'est qu'il faut être prêt dès ce soir. Et donc, c'est pour ça que, toujours un peu méfiant avec les projections qui estiment qu'il faut être prêt en 2029 ou 2030, en donnant quasiment le mois où il faudrait être prêt, en se basant sur certains organes de renseignement européens, car ça veut dire que d'ici là, nous ne serions pas prêts à faire face à un adversaire ou à une menace militaires sur nos propres intérêts. Donc, évidemment, la France, l'armée française a des capacités dès maintenant, est dotée de l'arme nucléaire, elle a un savoir-faire sur un certain nombre de composants, elle a une flotte qui sait faire aussi, qui sait faire montre de sa disponibilité, de son efficacité, contrairement à son homologue, la Royal Navy, qui connaît des difficultés aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on a des aviateurs qui font montre aussi de leur savoir-faire, de leur expertise. Sont engagés dans des missions de police du ciel sur le flanc oriental de l'Europe. On a pu voir qu'un pilote de Rafale a pu abattre aussi un drone dans l'espace aérien de la Lettonie. Donc, je veux dire, il ne faut pas non plus se lamenter sur l'état de nos armées. Bien sûr, il y a énormément de retard à rattraper et on a parlé de tous ces enjeux de volume et de masse. Mais on va dire que la vision est là, l'expertise est là. Et maintenant, il manque des crédits et de passer à un volume supplémentaire. Ensuite, sur la question de la menace militaire russe, là où il y a, bien sûr que ça, c'est la stratégie française, c'est sa tradition, elle doit être capable de faire face à toute menace. Et donc, évidemment, sur le continent, mais aussi au-delà. Et donc, bien sûr que nos armées, dans la planification militaire, dans la façon dont on envisage nos forces, doit préparer un tel scénario. Mais ça, c'est une chose de le dire. Une autre chose, c'est de dire on va forcément et logiquement vers cet affrontement et qu'on doit préparer et ne pas éviter. Et là, c'est parfois là où peut avoir dans le débat français ou dans la bouche de certains responsables politiques, on a vu des erreurs, des maladresses et même plus que cela, c'est de ne pas envisager la manière dont on peut éviter un tel conflit avec la Russie sur le continent. Et on le voit au Parlement européen, on a souvent des collègues qui disent « Bon, le renseignement allemand, le renseignement suédois, je ne sais plus si c'était suédois ou danois, nous disent qu'il y a une possibilité d'attaque russe en 2029-2030, donc préparons la guerre dès maintenant qui adviendra en 2029 ou 2030. » Donc voilà, ça, ce n'est pas la même chose de dire il faut se préparer à pouvoir faire face à un tel conflit. Ça doit aller de pair avec le fait de dire comment éviter ce choc, cet affrontement qui n'est c'est pas inscrit aujourd'hui, c'est pas inéluctable. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important à préciser. Mais à la fois à faire comprendre aussi à l'opinion publique que se préparer ou vouloir donner à nos forces armées les moyens de faire face, ce n'est pas non plus souhaiter ou préparer la guerre avec la Russie. Ça, c'est important d'avoir cette distinction à faire. Ce qu'on doit rechercher, c'est la dissuasion. La dissuasion, ce n'est pas seulement au terme nucléaire, hein, ce n'est pas simplement l'arme nucléaire, c'est la dissuasion au sens large, au sens global, c'est-à-dire empêcher un adversaire d'entreprendre une action hostile à notre égard ou à l'égard de nos intérêts de sécurité. Ou s'il l'entreprend, faire en sorte que cette action agressive soit beaucoup plus coûteuse pour lui que lui apporte de bénéfices et d'avantages. Voilà. Cette logique de dissuasion, elle passe par le renforcement de nos capacités, de nos forces armées nationales, elle passe par la crédibilité de nos alliances, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec nos alliés, quelle crédibilité on a, et c'est ça qui peut empêcher un conflit de survenir. La dissuasion, donc nos capacités nationales et en termes de coalition de nos alliances, et la deuxième partie, c'est évidemment l'enjeu diplomatique, et c'est un petit peu le règlement du conflit ukrainien et son règlement au terme d'un accord de paix, qui ne soit pas simplement un cessez-le-feu temporaire avant la reprise d'une guerre majeure quelques années plus tard. Donc ça, c'est un petit peu les deux grandes préoccupations que doivent avoir des responsables politiques aujourd'hui. S'assurer de la dissuasion de notre modèle de force et celui de nos alliés, et dans une deuxième partie, ne pas négliger l'importance de ce dialogue aussi diplomatique et de faire en sorte qu'un tel conflit tel qu'il peut être présenté ou programmé ne survienne pas. Mais voilà, je pense qu'il faut savoir dissuasion et diplomatie. À mon avis, ce sont les deux perspectives qu'on doit avoir à l'égard de cette question d'une éventualité d'un conflit majeur en Europe.
Thibaut Perrin, justement cette question de la dissuasion nucléaire, est-ce qu'elle demeure pertinente au XXIe siècle, face à la puissance de l'intelligence artificielle?
Alors, c'est une question, effectivement, qu'on peut se poser. Je me serais attendu à effectivement, la question plutôt des guerres hybrides. On voit souvent, et c'est le constat que font les militaires, des guerres qui passent sous le spectre des relations conventionnelles entre des États, y compris des États dotés de l'arme nucléaire. C'est toute la question avec la Russie. On a du mal à imaginer une guerre conventionnelle parce que des deux côtés, on est protégé par l'arme nucléaire. Pourtant, et c'est là qu'effectivement, il ne faut pas se tromper. L'arme nucléaire, elle a, c'est une arme qui a pour objectif de protéger les intérêts vitaux de la nation. Et c'est bien une arme de dernier recours ou une arme qu'on aimerait ne jamais avoir à utiliser, même si il faut aussi montrer et savoir montrer qu'on sait l'utiliser. Ou qu'on saurait le faire si c'était absolument nécessaire. Donc c'est toute la subtilité de la dissuasion française. Et donc pour répondre effectivement à ces enjeux-là, oui, il y a des attaques, des menaces qui passent sous ce qu'on appelle le seuil de déclenchement nucléaire, sous le seuil à partir duquel on serait éventuellement prêt à envisager de renforcer notre posture nucléaire, d'adresser ce qu'on appelle les signaux stratégiques, etc., etc. Il y a toute une grammaire nucléaire que les présidents français apprennent quand ils arrivent en fonction et qui permet à la France et à tous les États dotés de maintenir finalement cette paix, cette stabilité dans le monde qu'on a connue depuis 1945, qui est quasiment inégalée à l'échelle de l'humanité et dont on espère qu'elle va se prolonger. Voilà, il n'en reste pas moins que chaque puissance peut être tentée, avoir des velléités d'aller au-delà de ces frontières, au-delà de l'usage des moyens commerciaux, de la paix, etc., pour faire valoir sa volonté politique. Et c'est bien le rôle des armées de se prémunir contre de telles tentations. Il ne faut pas oublier que la France, c'est bien sûr le territoire métropolitain, mais c'est aussi un vaste outre-mer. C'est le premier domaine maritime mondial, si on prend en compte l'ensemble de ce que nous permet d'avoir notre domaine maritime. Et tout ça, il faut le protéger. Tout à l'heure, monsieur le député parlait des frégates. Effectivement, on a 15 frégates de premier rang. Il était prévu d'en avoir 18, hein, 3 de plus. C'est l'une des raisons pour lesquelles le budget a été sanctionné au Sénat. Et c'est ce qui est en train de se discuter dans le cadre de la commission mixte paritaire qui doit adopter ou non l'actualisation de la loi de programmation militaire. Donc on a des enjeux très forts d'avoir un modèle d'armée qui est cohérent. Aujourd'hui, si on regarde la Chine, par exemple, construit de très nombreux porte-avions. Si la Chine construit des porte-avions tout en étant elle aussi un État doté de l'arme nucléaire, c'est sans doute que les porte-avions ont encore une valeur stratégique au XXIe siècle. Et donc, c'est sans doute que la France, elle aussi, doit tenir son rang.
Pierre-Romain Thionnet, on approche de la fin de l'heure à laquelle nous nous sommes tenus. Un sondage Odoxa est paru il y a quelque temps qui expliquait que Jordan Bardella, de l'avis des Français, serait le meilleur des chefs de guerre. 32% considéraient que Jordan Bardella était un bon chef de guerre et 30% seulement en faisaient crédit à, comment s'appelle-t-il, Édouard Philippe, voilà, et François Hollande, qui pourtant a été président en exercice et qui a eu à gérer des conflits, comme par exemple l'envoi des forces françaises au Mali, et lui quasiment en bas de l'échelle. Pensez-vous que la guerre soit une solution diplomatique qu'on doit envisager aujourd'hui? Vous avez déjà en partie répondu en expliquant que voilà, c'est d'abord la dissuasion. Mais la France est engagée dans ce conflit en Ukraine et Emmanuel Macron pousse pour qu'on y soit beaucoup. La France a décidé de participer à la sécurisation du détroit d'Ormuz. On s'aperçoit qu'il ne suffit pas de ne pas vouloir faire la guerre pour que la guerre ne nous rattrape pas. Et quand en plus on a un chef d'État qui lui est prêt à partir en guerre sur tel ou tel sujet, donc c'est quand même une possibilité qui se dresse devant nous, indépendamment de la loi de programmation militaire et indépendamment d'ailleurs de la manière dont 2027 va se jouer, parce que une fois que les élans sont donnés, il y en a certains qui sont compliqués à arrêter.
Quoi qu'il en soit, en effet, sur ce constat d'ordre général et sur l'état du monde aujourd'hui, il y a clairement un ensauvagement des relations internationales et l'horizon de la guerre n'est plus quelque chose de l'ordre du fantasme. Et donc, on le voit en effet, même des guerres que la France n'aurait pas décidées et pour lesquelles elle n'a pas été consultée, il y a des répercussions très concrètes sur nos intérêts de sécurité régionaux, sur notre économie, sur notre modèle aussi commercial. Donc, finalement, ce soit la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, a remis la guerre comme horizon des Français et des Européens. Ça, c'est une première chose. Et la France n'est pas en guerre, ni avec la Russie, ni avec l'Iran, ni avec aucune autre puissance aujourd'hui. Mais on peut faire le constat c'est Raymond Aron qui appelait ça d'une paix belliqueuse. Voilà, je crois qu'on est dans ce régime-là où il est un petit peu difficile aujourd'hui de tracer une frontière bien nette entre paix et guerre. Et lorsqu'on n'est pas en guerre, on n'est pas non plus en paix absolue, en tout cas dans la définition qu'on pouvait avoir de la paix, avec un certain nombre de puissances aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. Donc, bien sûr, qu'importe le président de la République, il y aura les relations internationales d'ici le printemps 2027 ne vont pas reprendre un ordre tel qu'il était fondé sur un ordre libéral international multilatéral. Je crois qu'il y a une crise de longue durée et il y a plutôt une recomposition de l'ordre international avec cet horizon de la guerre auquel personne ne peut échapper. Non pas à la guerre, mais je veux dire cette perspective-là, ce besoin de se préparer. Et c'est pour ça qu'au Rassemblement national, que ce soit dans la campagne des Européennes en 2024 ou dans le cadre de la campagne présidentielle qui arrive, mais qui a déjà commencé, la notion de puissance est vraiment au cœur de notre programme et de notre vision politique pour la France. Ça, c'est vraiment une notion essentielle qu'on avait déjà mise en avant en 2024 et qui sera largement mise en avant dans l'élection présidentielle 2027. Puissance qui n'est pas seulement militaire, mais les enjeux énergétiques, les enjeux de souveraineté, de réindustrialisation, d'intelligence artificielle, bien sûr. Et ensuite, pour revenir sur le sondage dont vous avez parlé, je crois que pourquoi il y a eu certains de nos adversaires politiques, Édouard Philippe ou Gabriel Attal ou d'autres, qui régulièrement, ou Jean-Luc Mélenchon, utilisent cet argument aussi, dans le cas d'une candidature de Jordan Bardella à la présidentielle. Donc, évidemment, comme vous le savez, Radio Courtoisie en parle régulièrement le 7 juillet avec cette décision de justice pour en sorte de savoir si Marine Le Pen ou Jordan Bardella sera le candidat du Rassemblement national. Mais j'allais dire qu'importe pour cette thématique-là de la guerre et de la crédibilité internationale, puisque Marine Le Pen d'ailleurs était la troisième personne là, jugée la plus crédible pour faire face à cette crise, avec des, franchement, c'était quasiment le même résultat que Jordan Bardella. Mais pourquoi les Français accordent aux candidats potentiels du Rassemblement national un crédit à gérer les crises? Je crois que c'est notamment, et on a tendance à oublier cette conception-là, parce qu'ils incarnent aussi la capacité de rétablir la paix intérieure. Et ça, c'est parfois, on sépare assez trop largement, artificiellement, les enjeux intérieurs et les enjeux extérieurs, internationaux. Or, l'ordre intérieur, la cohésion nationale, j'allais dire aussi la cohésion culturelle du peuple et de la société, est un vrai enjeu de puissance et de crédibilité sur la scène internationale. Et je pense que c'est ce qui explique aussi que les Français se disent, avec un dirigeant du Rassemblement national, Marine Le Pen ou Jordan Bardella, on aura cette crédibilité intérieure, on aura ce retour à l'ordre, et ça donnera aussi une crédibilité supplémentaire aux représentants de la République française dans des négociations internationales, dans la capacité à parler aux autres puissances de la scène internationale. Et donc, je crois que ça, c'est un vrai enjeu. Et je pense que ce sera notre plus-value sur ces questions-là, qui auront toute leur place dans la campagne présidentielle, hein, les enjeux internationaux et militaires, de montrer le lien entre rétablissement de la paix civile en France, rétablissement de l'ordre en France, rétablissement de l'unité nationale et crédibilité sur la scène internationale. Je pense que ça, c'est une dimension qui est largement évacuée ou négligée par nos adversaires politiques.
Merci beaucoup, Pierre-Romain Thionnet. Thibault, le mot de la fin sur les enjeux pour la France après 2027, l'élection présidentielle, la manière dont vous envisagez les choses d'un point de vue de la défense, mais aussi d'un point de vue national.
Je pense que ce qui a été dit est particulièrement juste. Il est et au-delà, ça peut évidemment rassembler au-delà d'un camp politique. L'idée d'associer la paix intérieure avec la sécurité extérieure, c'est une aspiration universelle. Ce qu'on peut souhaiter, effectivement, c'est que les diagnostics justes soient réalisés. On n'est pas encore dans une campagne électorale, mais on sent qu'on s'en approche de plus en plus. Et une campagne, c'est un moment de catharsis pendant lequel l'ensemble des citoyens, l'ensemble des forces politiques, l'ensemble du tissu de la société civile se posent ces questions fondamentales pour l'avenir de la nation, qui nous engagent parfois sur du très long terme. Là, on parle de défense. La défense, c'est des programmes et c'est des plans, des projets qui occupent des décennies. Et donc, effectivement, c'est le moment de peser les choses et de faire les bons choix.
Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup, Thibault Perrin. Donc, je rappelle que vous êtes le directeur du Centre d'analyse et de prospective de l'ICEP, donc l'école cofondée par Marion Maréchal et Thibault Monnier. Et merci beaucoup, Pierre-Romain Thionnet, donc du groupe des Patriotes pour l'Europe. Autrement dit, vous êtes eurodéputé au sein du groupement qui réunit tous les élus du Rassemblement national au Parlement européen. Bon, merci de nous avoir parlé de défense.
Merci à vous.
Et à bientôt, évidemment, sur Radio Courtoisie pour parler défense, guerre, LPM et toutes ces choses qu'on nous promet.